Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halo Dmoni.
Chenni Berry.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Comment promouvoir le dialogue inter- et intracommunautaire à Bandiagara? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir, délocalisé dans cette région située au centre du Mali. Auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce débat qui a comme invité Paul Togo, membre de la société civile, Bokary Cissé, dit Monsieur Bailo, enseignant retraité, Amadou Lougué, président du conseil local de la jeunesse. Je suis Mouhamadou Touré, à la régie vidéo et audio, Mamadi Keïta, au niveau de la réalisation, c'est avec la contribution de Adama Digiba.
Le Grand Dialogue.
Alors, comme je le disais, le Grand Dialogue de Studio Tamani de ce soir est délocalisé ici à Bandiagara. L'ambiance que vous entendez fait partie du décor puisque nous ne sommes pas dans un studio mais en plein air et nous allons poser le débat. La première question à vous, Monsieur Bokary Cissé. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a conflit intercommunautaire déjà dans la région de Bandiagara?
Bien, Monsieur Touré, tout d'abord, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de choisir pour animer ce dialogue. Et pour répondre à votre question, s'il y a un conflit ici à Bandiagara intracommunautaire, je dirais non. Franchement, je dirais non. À Bandiagara, entre les communautés, il n'y a pas de conflit. Il peut y avoir des malentendus, ok, qui trouveront rapidement des solutions si réellement on s'acceptait, si réellement on organisait un dialogue. Et cela existe partout. Mais dire qu'il existe aujourd'hui un conflit intracommunautaire à Bandiagara, je ne pense pas.
On va poser la même question à Paul Togo. Paul Togo, est-ce qu'il y a un conflit entre des communautés dans la région de Bandiagara?
J'ai l'impression que M. Bailo Cissé était là ce matin. C'est ce que nous avons dit aussi. En fait, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit intercommunautaire. Et nous sommes tous là en symbiose, en harmonie. C'est ce que nous avons trouvé et c'est ce que nous voulons essayer de perpétuer. On va s'engager à cela pour l'instant.
Alors, Amadou Lougué, vous êtes président du conseil local de la jeunesse. S'il n'y a pas de conflit entre communautés, comme l'ont dit tout de suite M. Togo et M. Cissé, qu'est-ce qu'il y a donc dans la région de Bandiagara comme insécurité?
Ok, merci beaucoup M. Touré. Comme à l'accoutumée, je reviens encore demander la parole auprès de nos sages, mon père. Je peux m'exprimer?
Vous pouvez aller.
Merci beaucoup. Monsieur Touré, pour revenir à votre question, comme l'a dit mes pères, on n'est pas en conflit intercommunautaire. Et je suis très très heureux d'écouter ça auprès de mon père ici. On était là ce matin parlant de cette situation. Et tout le monde est unanime qu'il n'y a pas de conflit intercommunautaire. Alors, ce que nous vivons, comme j'avais eu à le dire le matin, c'est le terrorisme, c'est le banditisme, mais aussi le djihadisme. Et c'est ce qui nous a quand même amené aujourd'hui à mal interpréter et pour dire qu'il y a un conflit entre deux communautés. Et il n'a jamais eu un conflit entre deux communautés, il n'y en aura jamais aussi. Alors, mon père l'a dit tout de suite, il peut y avoir des malentendus. Et ça, c'est depuis la nuit des temps, même entre intra-communautés, c'est normal qu'il y ait au moins des malentendus. Mais tout de suite, en famille, on doit se parler et amener cette malentendue derrière nous. Et sinon, en réalité, au niveau de Bandiagara, on n'a pas connu un conflit intercommunautaire, M. Touré. Merci bien.
M. Cissé, pourquoi donc on parle de conflit entre communautés hors de Bandiagara, que ce soit à Bamako, on entend également de part et d'autre qu'il y a des conflits entre les communautés. Est-ce que c'est une mauvaise interprétation? C'est dû à quoi, selon vous?
Bien, donc vous savez, les gens qui sont loin, les gens qui habitent loin, ils ont leur point de vue, leur perception. Mm. Cette perception est différente de ce que nous vivons ici. Sinon ici, aujourd'hui, ça je vous le dis, je ne vous cache pas, je suis chef de quartier. Dans mon quartier, je n'ai pas vu deux communautés différentes.
Ah, vous êtes un des chefs de quartier de Bandiagara.
Ah oui, oui. Mm. Comme j'ai dit en guise d'introduction, mm. il n'y a pas eu de conflit entre communautés. Mm. J'insiste qu'il n'y en a pas eu. Évidemment, quand on est loin, on apprend beaucoup de choses. Et nous, souvent, on nous téléphone pour dire qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Mm. Quittez, pourquoi vous ne quittez pas la ville? Nous disons, non, nous, nous vivons. Nous sommes nés à Bandiagara, grandis à Bandiagara, nous allons mourir à Bandiagara. Mm. Moi, par exemple, c'est mon cas. Hein. Où je vais aller? J'ai même une maison partout, mais je préfère la maison de Bandiagara.
Vous êtes peul, vous vivez à l'aise aujourd'hui à Bandiagara.
Je ne suis pas peul. Mm. Je ne suis pas peul. Okay. Je suis Haoussa. Mm. Mais grandi à Bandiagara. Mes parents sont nés ici, grandis ici. Et pour dire qu'en tout cas, il n'y a pas du tout de crise ici communautaire. Mm.
Voilà. Alors, mais est-ce que les communautés locales sont impliquées tout de même dans cette, ce qu'on appelle terrorisme ici ou ce qui peut être appelé comme banditisme ou même djihadisme?
Ici, c'est ce que j'ai dit. À Bandiagara, même, on ne sent pas ça. Mm. On apprend, par exemple, qu'à Songo, à Tegrou, ailleurs, qu'il y a eu du terrorisme ou il y a eu du banditisme. Mm. Mais à Bandiagara, ici, vraiment, on n'a pas senti cela. Mm. Voilà, on apprend comme les autres.
Si vous pouvez accrocher le micro.
Voilà, on apprend comme les autres. Hein, c'est tout à la radio. Hein, on dit, voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais à Bandiagara, franchement, on n'a pas vu encore. Mm. Voilà.
Monsieur Togo, est-ce que les communautés sont impliquées dans ce terrorisme, dans ce banditisme, même s'il n'y a pas de conflit entre communautés, comme vous l'avez soulevé?
Comme je vous l'avais dit, les communautés ici quand même vivent en bonne harmonie. Aujourd'hui, c'est un mariage chez les Haoussa que j'ai connu il y a au moins plus de 30 ans ici. On a travaillé beaucoup ensemble. J'y vais, ils m'invitent et j'y vais. C'est pas du tout apparent. C'est pas apparent. Il y en a, comme il a bien voulu le dire, qui nous ont quittés, qui sont partis. Effrayés par quoi? On ne sait pas. Ils ne l'ont pas dit. Un beau matin, on nous a trouvés ailleurs. C'est tout. Mais nous, nous souhaiterions qu'ils reviennent. Mais ici même, il n'y a pas eu de problème entre nous. Comme les Dogons disent, et tout le monde le dit d'ailleurs, la langue et les danas sont ensemble. Parfois, ça peut se frotter, mais elle ne se quitte pas. C'est pour cela que beaucoup n'ont pas quitté, ils sont restés parce qu'ils se disent qu'ils sont sains. Ils n'ont pas commis de faute, ils n'ont pas commis d'erreur. Donc, je ne vois pas ici, quand même, à Bandiagara, quelques communautés. Comme on a dit ce matin, il y a beaucoup. Il y a des Mossi, il y a des Peul, il y a des Haoussa, il y a des gens qui sont du sud, de Burkina. Ça, on ne peut même pas compter.
Mais au-delà de la ville de Bandiagara, quand on prend la région de Bandiagara oui. même en compte, est-ce qu'aujourd'hui les menaces djihadistes sont réelles?
Alors, vous revenez encore à ces mots djihadistes, mais moi, je reviens toujours encore à ces mots bandits. Quoi. Mm. Des gens qui cherchent l'argent, Nataya Kodedo, ils cherchent l'argent. Et c'est comme les bandits à Bamako ou dans la grande ville qui s'associent, ils se reconnaissent, ils s'associent. Et ils font des plans d'attaque. Là, c'est la même chose. Vous direz quelque chose vers Douro même, un village là, l'est, à 25 km d'ici. Quand il y a eu une attaque à Douro, c'était un coin vraiment inaccessible. Hein, mais ils ont fait des plans pour y arriver. C'est avec la complicité de nos jeunes. Puisque lorsque vous entendez un coup de feu dans un village comme Douro, chacun se taire. On ferme la porte, on se taire. Et ils ont entendu des jeunes dire, des jeunes qui accompagnaient les plus excités, les plus courageux pour foncer là. Ils ont entendu leur dire en Dogon, ça c'est la maison d'une telle. Elle a beaucoup d'argent. Elle a beaucoup d'argent. Allez-y. Il faut prendre. Cette pauvre femme-là, qui avait plus de 70 ans, une balle dans les pieds, elle maudissait ces gens-là. Mais ils ont appelé sa fille, hein, nuitamment. Ils ont appelé sa fille qui a dit que ta maman, là, ta grand-mère a de l'argent, montre-nous. La fille a dit, c'est à cet endroit. C'est avec ça qu'ils sont passés. Donc, vous voyez, c'est des bandits. Ceux qu'on peut dire djihadistes maintenant, eux, ils sont venus, comme on l'a dit ce matin. Ils étaient venus. Ils étaient venus avec de grandes barbes, de longues barbes. Ils ont séjourné. Ils ont chez nos paysans, dans des familles, comme si c'était encore des frères à eux. Mais ceux-là, avec les mesures énergiques de l'État et des populations, ils sont partis. Ils sont partis. Maintenant, les autres là ont pris à peu près leur place, même s'il y a des djihadistes, ils ne sont pas très nombreux. Ils ne sont pas très nombreux. Ils parlent Dogon, ils parlent Peul, c'est ça. De l'autre côté aussi.
Donc ça veut dire que les communautés locales sont impliquées.
Ah oui, oui. Dans l'acte, dans les actions, par exemple, ils sont impliqués. Aussi bien les Dogons que les jeunes Peul, que certains jeunes Peul. Ils connaissent, ils ont quitté ici. Ils connaissent qu'un tel, il a un troupeau. Et c'est à tel endroit. Donc, quand ils viennent avec des gens, c'est eux qui disent, allez chez un tel. Il a tant d'animaux. Allez chez un tel. Il y a ceci, il y a cela. C'est ce qui se vit aujourd'hui.
Est-ce que le dialogue entre les différentes communautés, le dialogue entre la population tout court, de façon générale, existe aujourd'hui pour trouver une solution à cette situation, M. Louguet?
Ok, il y a un dialogue. Hein. Il n'y a jamais eu ce qu'on appelle cette cessation de dialogue. Et mon père peut le témoigner. On a plusieurs fois organisé des foras, des rencontres entre communautés, des rencontres avec les autorités pour dire les griefs de ce problème que nous vivons, c'est quoi. Et quelles sont les solutions locales qu'on devrait proposer afin de minimiser le risque que nous vivons en termes de sécurité. Alors, le dialogue, il va continuer. C'est vrai, on a pu l'instaurer. Je parle sous la surveillance de mes pères ici présents pour dire que dans les jours à venir, par le passé également, on doit encore se rencontrer. Parce que tant que le dialogue n'est pas rompu, je pense que cette réconciliation, ce pardon, ce vivre ensemble est possible entre nous. Et qui parle de dialogue, parle de franc-parler de chacun, de chaque communauté a vécu à travers cette insécurité et se dit on a intérêt de se donner la main, on a intérêt de vivre autant que nous pouvons comme par le passé et en même temps de s'interroger qu'est-ce qui s'est passé entre nous, qui est à la base de cette insécurité, qui nous a inculqué dans la tête ce terrorisme, ce conflit intercommunautaire. Et lorsque chaque communauté donnera une réponse à ces questions, naturellement, on va avoir une solution à ces problèmes.
Et posons donc ces questions que vous venez de soulever aux différents invités. Qu'est-ce qui s'est donc passé dans la région de Bandiagara?
Bien, donc, M. Touré, vous savez, hein, il y a eu mal d'un quelque part. Il y a eu du mensonge quelque part. On a effrayé tout le monde. On ne sait pas pourquoi les gens se battent.
Qui a effrayé tout le monde?
J'arrive. Donc on a créé un malentendu qui est là. C'est-à-dire, on a dit voilà que au départ, quand on a attaqué Kona, on a dit que oh, les djihadistes sont en route sur Bandiagara. Les gens ont eu peur. Après, on entendait à Bandiagara que oh, les djihadistes vont entrer. Mais les gens ont eu peur. Donc, on donne des fausses informations. Des fausses informations. Les gens qui ont peur, ils vont partir. Voilà comment les gens ont fui. Hein. Voilà comment les gens ont fui. Voyez-vous. Donc, c'est des mauvaises informations qui circulent. Alors là, les gens ont peur.
Mais ça, c'était au début.
Ça, c'était au début. Et par la suite, certains ont compris que ce n'est pas une réalité.
Ceux qui sont courageux sont restés, mais par contre, d'autres sont partis. Voyez-vous. Mmh. Et nous avons continué à sensibiliser des gens, comme l'a dit M. Louguet. On se demande, souvent, on se pose la question, mais comment est arrivé ce conflit-là? Mais personne ne peut répondre. Hein. Comment? Mmh. Qui a apporté ça? Ça vient d'où? Et pourquoi les gens se battent? Franchement, on pose la question, mais on n'arrive pas à trouver une solution. Mmh. Moi, je dirais que on nous a imposé à avoir peur, on nous a imposé, c'est pas à dormir sur un seul oreiller, c'est très grave.
Et on ne sait pas qui a imposé
on
cela.
On ne sait pas. Mmh. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Mmh. Moi qui le dis, vraiment, je ne le sais pas. Mmh. Voyez-vous? Donc, il faut vraiment avoir le courage de faire une étude profonde et garder son sang-froid. Voilà.
Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aller au-delà de fausses informations quand on voit les massacres qui ont lieu au centre du Mali, quand on voit les attaques qui continuent à avoir lieu au centre du pays? Est-ce que ce n'est pas aller au-delà de fausses informations? Est-ce que ce n'est pas devenu une réalité aujourd'hui?
C'est devenu une réalité. Prenons le cas de Diala Sagou, ce cas malheureux. Tout Malien, en tout cas, digne de ce nom, vraiment à pitié. On a peur. Voyez-vous, on a appris comme ça, notamment que Diala Sagou a été attaqué, comme on a appris il n'y a pas longtemps qu'à Songo, dans un car, on a brûlé des enfants, des femmes. Mais qui a fait? Comment c'est venu? On se pose la question. On a peur, c'est ce que j'ai à vous le dire, hein.
Est-ce que les populations qui ont fui n'ont pas, dans ce cas, eu raison de partir puisqu'on ne savait pas?
Ah mais si, ces populations sont là maintenant à Bandiagara. Et on va poser la question à ces populations, pourquoi vous avez fui? Ah bon? Vous osez nous poser cette question? Vous n'avez pas entendu ce qui s'est passé? Voyez-vous? C'est ça le problème. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas comment c'est venu. Vraiment, que Dieu nous en garde, que Dieu nous protège.
Monsieur Togo, avez-vous la même explication à la question? Qu'est-ce qui s'est passé dans la région de Bandiagara pour que la situation empire de telle sorte?
Il l'a dit, il y a aussi eu des dénonciations calomnieuses pour beaucoup de gens. Et c'est ainsi qu'ils ont pris peur et chacun est parti de son côté, est parti de l'endroit où il peut être plus sain, plus libre et mener des activités quand même. Donc ça a été. Alors je pense que votre question, il faut vraiment insister sur ça. Comment tout cela nous est arrivé? Nous avons toujours dit que le ciel tombe sur notre tête, mais on ne sait pas comment est-ce qu'il est tombé sur notre tête. Actuellement, ceux que nous voyons qui agissent en dehors de Diala Sagou, ceux qui agissent sur la RM15 ici, ceux-là quand même, il est presque prouvé que c'est des bandits. Ils cherchent l'argent seulement tout court. Ceux qu'ils ont attaqués, c'est des gens qui ont été cités, ils sont passés à la banque, ils ont de l'argent, ils l'ont montré à Bayangara. L'endemain, ils doivent aller sur ces barrières. On aura téléphoné à ces gens qui sont cachés là-bas. Ce sont ces gens qui les ont toujours arrêtés. Jamais un pauvre type comme ça, si ce n'est pas un type collatéral, n'a été attaqué sur cette route-là. Des ONG qui allaient, ils sont venus ici en mission, certainement qu'ils avaient de l'argent, et c'est ça. Sinon, le mobile, vous le cherchez toujours, qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est difficile, mais pour ceux qui sont présentement là, je pense que c'est ça. Diala Sagou aussi a eu une explication. Diala Sagou a eu une explication.
Laquelle?
C'est des gens qui étaient partis au marché de Diala Sagou. Malencontreusement pour eux, les militaires aussi sont arrivés dans le marché à Diala Sagou. Et ils en ont vu qu'ils étaient en armes. Ils ont retiré les armes et ils les ont mis dans leur véhicule. Il y en a qui ont commencé à fuir. Ils les ont poursuivis. Fuir en direction de trois villages. Peul, Dogon, d'accord. Et les militaires ont quand même pu rattraper certains, même entrer dans les villages. Mais avant qu'ils entrent, je pense que ces gens-là ont fait feu sur les militaires. Les militaires également ont usé de leurs armes, mais en fin de compte, ils sont quand même arrivés à saisir certains des gens qu'ils avaient vus à Djalassogou et qui ont pu, ils les ont amenés. Dans les autres villages, c'est le même scénario. Donc, après cela, il y a eu un moment de répit pendant lequel ces gens, les parents, le reste de ces gens-là qui ont été appréhendés, ils sont partis au chef de village. Tu nous as dénoncé à l'armée. On va répliquer. Vous allez voir. Ils ont dit, hein, on va répliquer. Vous allez voir. Et c'est comme ça que ce soir-là, comme il l'a dit, le soir, ils sont venus. Tous ceux qu'ils voyaient, ils ont tué. Les hommes de caste, paraît que les gens, ils n'ont pas tué. Les peuls, ils n'ont pas tué. Mais tous les dogons qui étaient là-bas dans ces villages-là, quand même, ils ont fermé les yeux et ils en ont beaucoup abattu.
Mais quand ils ont procédé à ces menaces, est-ce que les autorités locales de ces villages, notamment Djalassagou, ont alerté les forces de l'ordre, les forces de sécurité?
Voilà, c'est ce qu'on nous a pas dit. S'ils les ont alertés, mais ils ont trouvé. Mais l'armée avait quitté là-bas il n'y a pas longtemps. Elle est revenue, elle a voulu faire un contrôle de marché. C'est comme ça, et ça n'aura pas du tout plu. Et c'est comme ça qu'eux, ils ont réagi par ce massacre-là.
Est-ce que cette situation, si c'est comme ça que ça s'est déroulé, est-ce que ça peut promouvoir le dialogue qui est recherché, notamment entre les forces de défense et de sécurité et la population civile? Monsieur Lougué.
Bon, je ne dirais pas que ce n'est pas possible. Il faut avoir le courage de le dire. C'est sur le sol du Mali que le drame s'est causé. Et c'est entre Maliens qu'on va résoudre ce problème. Malgré la douleur que les gens ressentent. Et du passage, nous prions Allah pour le repos éternel de ses âmes. Mais à partir du moment qu'on laisse place à l'essentiel, je pense qu'on peut arriver à ce processus de dialogue entre Maliens. Comme j'aime à le rappeler, ce que nous vivons n'est pas au-delà de nous. Ce qui veut dire que même s'il y a une extermination qui a vu le jour, on doit savoir se pardonner et situer la responsabilité. Et à ce niveau, je pense bien, M. Touré, que lorsque on va entamer ce processus de dialogue entre les forces armées de sécurité, mais aussi entre les populations, on va y arriver un jour pour sortir de cette crise qui n'a que trop duré.
Mais du moment où les causes réelles, ce qui s'est réellement passé, ce qui a provoqué, lancé ce processus auquel les populations sont confrontées aujourd'hui, n'est pas encore connu selon les différentes réactions autour de cette table. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la situation aujourd'hui dépasse un tout petit peu les populations elles-mêmes?
Bon, peut-être je vais peser mes mots. Lorsque mes pères disent que ce n'est pas connu, je suis de même avec eux. Mais je dirais en partie, c'est un peu connu.
C'est quoi donc?
On a dit autour de cette table depuis le matin qu'on a trois formes d'insécurité.
Lequel?
On a dit c'est le terrorisme, on a dit c'est le banditisme et on a dit c'est le djihadisme. Et à partir du moment où on s'est dit que une partie des djihadistes ont quitté le pays en laissant place la place, ce qu'on appelle au banditisme. Et en partie, ce sont nos frères qui sont égarés et qui ont eu la facilité mentale de regagner ses ans et qui nous coupent le sommeil. Et en d'autres parties, on appelle le terrorisme. Ça, c'est connu quand même. Et à partir du moment où ces deux formes sont déjà connues, il est bon aussi qu'on se pose la question, qu'allons-nous faire pour venir à bout de ces deux formes d'insécurité? Nous ne sommes pas seuls à combattre le terrorisme et ce qu'on appelle le banditisme. L'État est à côté de nous, l'armée est à côté de nous. Conjuguons nos efforts. Ce n'est pas le seul, ce qu'on appelle problème de l'armée malienne à venir à bout de l'insécurité. J'avais eu à le dire sur cette table. Nous, population civile aussi, on a notre rôle à jouer. Et c'est là que chacun joue sa partition de façon franche et sincère. Je ne suis pas armé, je n'ai même pas un filet de sas, à plus forte raison de Kalash, je ne peux pas aller me combattre. Mais je peux parler à mes jeunes qui sont égarés. Je peux les convaincre de revenir. Ça, c'est mon rôle. Maintenant, l'armée aussi peut, dans son rôle de sécurisation des personnes et de leurs biens, peut poursuivre avec ce qu'elle est en train de faire. Également, les sages qui sont là, avec leur bénédiction, ils peuvent également démarcher. Ils peuvent continuer à sensibiliser toutes les sensibilités afin qu'on se retrouve sur la même table de négociation, de dialogue, pour trouver une solution. Trouver le Mali qu'on a connu, à travers ces vieux, à travers leurs conseils, à travers leur orientation, tout ce que nous vivons là n'est pas au-delà d'un Malien lambda.
Mais donc, vous avez évoqué les rôles de différents acteurs. Est-ce que cela veut dire que ces différents acteurs ne jouent pas leur rôle ou est-ce qu'il y a un des acteurs qui ne joue pas son rôle?
Je ne peux pas, je ne peux pas tout de suite donner la réponse à ça. Mais vous savez, ce que le Mali vit n'est pas né hier. S'il faut faire la genèse de cette crise, il faut remonter dans les années 1960. Et jusqu'à nos jours, on s'est rendu compte que peut-être qu'en voulant traiter un problème, sans pourtant le diagnostiquer, on donne une solution, on passe.
Et M. Togo veut réagir sur la question.
Oui. Quand on vous a dit qu'il était difficile pour nous de plaquer ça aux djihadistes, c'est qu'on peut s'expliquer. Il vient de dire l'indépendance à un certain moment là. Tous les remous qui s'est passé au nord là. Celui qui a suivi le président Modibo Keïta, il a dit que c'est des bandits armés. C'est qu'il les a qualifiés. Pas des rebelles, c'est des bandits armés. Quand le troisième est venu, il a dit que ce sont nos frères, ce n'est pas des bandits. Allons les voir, parlons leur le langage de vérité, le langage de réconciliation. Avec tout ça, vous avez vu aussi que ça ne s'est pas du tout amélioré. Ça boue au nord, ça boue au centre, ça boue un peu partout. Donc aujourd'hui, ce qui est palpable, on peut dire que ces gens sont... Vous voyez ceux qui sont là aujourd'hui, là, ils n'ont aucune idéologie. Ils n'ont pas d'idéologie. Avant, c'était le prétexte que c'est des djihadistes. On dit que c'est des djihadistes. Moi, je vois ça, c'était une couverture. Donc, c'est des groupes organisés peut-être internationalement pour nous prendre quoi? Nous prendre et nous mettre encore le plus bas possible. Nous distraire. Je pense que c'est... Bon, on n'est pas dans l'île, vous êtes très bien habitués à ces gens-là. C'est très difficile.
On va donner la parole à Bokary Cissé, dit M. Bailo. Aujourd'hui, on entend souvent qu'il y a des échanges entre différentes communautés, que ce soit à Bandiagara ou ailleurs. Mais pour le cas de la région de Bandiagara, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces échanges, ce dialogue est franc?
Oui, M. Touré. Nous tenons fréquemment et régulièrement des dialogues francs. Nous invitons nos parents de Koro, de Douanza, de Bankas, de Bandiagara, dans une même salle, et nous cherchons toujours des solutions. Ça ne peut pas finir en un jour. Comme l'a dit quelqu'un, il y a certains qui n'ont pas compris. Donc, en échangeant, nous allons certainement un jour trouver la solution la meilleure. En tout cas, les échanges sont très fréquents. Très fréquents, je vous dis. Parce qu'il faut toujours continuer avec ce franc-parler. Ça, même si on prenait les armes, ça ne peut pas résoudre le problème. Un jour, on va se retrouver autour de la table. Donc, prenons le devant. Ensemble,
voyons comment nous pouvons circonscrire ces problèmes-là.
Et à votre avis, qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux initiatives qui sont déjà en cours pour qu'on puisse, dans le long terme, parvenir à une entente, à une stabilisation de la zone?
Et je crois que cette stabilisation commence à naître au niveau de Bandiagara. Avant, les gens avaient peur. Hein. Je vous avoue que les gens allaient fuir, allaient quitter la ville. Hein. Mais certains ont compris, un grand nombre a compris. Et chaque fois que nous les invitons en réunion, ils viennent. Et chacun donne son point de vue
avant,
et fait des propositions.
Avant, est-ce que cette question-réponse aurait été possible entre M. Touré et M. Cissé?
Oui, c'est possible. Moi, je sais qu'un jour, la solution sera trouvée autour de la table. Et nos frères égarés vont comprendre et vont abandonner les armes. C'est sûr.
Comment donc, M. Togo, promouvoir ce dialogue franc que vous promouvez aujourd'hui, qui est déjà en cours, le dialogue entre les différentes communautés selon vos différentes réactions? Comment faire cette promotion de dialogue entre les différentes communautés?
Monsieur Touré, vous êtes arrivé à un bon moment où on a amorcé ce dialogue. Ce matin, je vous ai dit que d'ici le début de 2023, tout va se taire.
D'ici 2023, la situation va se stabiliser.
Nous croyons à ça. On a beaucoup d'espoir sur ça. On a foi à ça. Et on va le faire. Ceux qui sont là, ce sont des acteurs de la réconciliation. Nous sommes de tous bords. Lui, il vient du Sénat. Moi aussi, je viens du Sénat, c'est vrai. Lui, il vient d'ici. Mais on est là, on a vécu ensemble. Ce ne sera pas un problème. On a amorcé. Nous allons envoyer des délégations. On a cherché les causes, les conséquences, les recommandations. C'est déjà fait. Donc, on va envoyer des délégations sur nos sites de déplacés, partout où c'est. On va associer aussi le chef Omarien Tall de Banyangara, le chef de Banyangara, n'est-ce pas? Chef Omar Tall. Et on va l'associer aussi, puisque lui aussi, c'est ce qu'il cherche. Il a demandé ce matin, comme on l'a dit, de nous accompagner, vous comprenez, de nous accompagner sur la voie de la paix. On va le faire. Vous serez informé à temps. Vous serez informé à temps.
Est-ce que ces initiatives sont soutenues par les autorités?
Voilà. Pour l'instant, moi, mon avis, ils sont là. Moi, mon avis, moi, je n'ai même pas envie de les associer. Les gens ont peur de l'autorité. Ils ont peur. Même les Danans, on ne les a pas associés. Hein. Ils ne sont pas associés. Donc, on préfère que ce soit nous. Nous qui sommes là, nous qui sommes encore restés au village là, ce sont nos parents, on se voit, on s'entend, on peut se parler très très franchement. Et lorsqu'on aura tout fait, c'est comme ça qu'on va aller voir les autorités pour leur dire qu'on a engagé ça, nous sommes à telle étape, si vous pouvez nous aider, aidez-nous aussi.
Est-ce que vous pensez que c'est ça la bonne stratégie?
La stratégie par laquelle nous continuons jusque-là n'est pas mauvaise. D'autant plus que les gens ont adhéré à ça. Et ils ont fait parler leur cœur. Et ils ont fait des propositions allant dans ce sens. Donc ça voudrait dire que c'est une bonne stratégie.
Donc ça marche déjà.
Ça marche déjà. Maintenant, il y a de quoi peut-être encore aller plus vite. Il a dit d'ici 2023. C'est déjà proche. Hein. Et c'est aussi l'occasion ici de faire un appel pressant à toutes les personnes de bonne volonté, animées de paix, animées de cohésion sociale, animées de vivre ensemble, que les gens s'impliquent davantage de façon sincère à la recherche de cette paix. Et les sages l'ont dit tout de suite. Et dès que tout le monde s'impliquera de façon honnête, sincère et franche, M. Touré, d'ici 2023, on va mettre derrière cette insécurité là-bas. Et Banyangara, à travers la région, voire même le centre, voire même le Mali, on va vivre la paix, Inch'Allah. Et on a bon espoir et les initiatives ne manqueront pas. Bien entendu, les autorités également dans cette logique de nous accompagner. Ils sont là pour ça. S'ils n'arrivent pas à accompagner la population à la recherche de la paix, je ne vois même pas leur raison d'être. Et à ce niveau, ils seront également joués aussi leur partition pour dire, allez, ces communautés ont pris des initiatives allant dans le sens de la paix, de la sécurité. Voilà, nous aussi, ce qu'on peut faire. Mais lorsque une autorité va s'interférer entre deux communautés, ça, ça sera la catastrophe. Donc, à ce moment, ils vont dire que, bon, telle autorité a appuyé une communauté pour laisser une communauté pour compte. On n'en est même pas à ce niveau. Et nous, d'abord, c'est notre problème à nous, communauté. Deux communautés ou trois communautés, c'est notre problème à nous. Et on doit chercher des solutions à nous. Et à ce moment, on part avec des propositions chez l'autorité. Et l'autorité, dans son rôle, peut-être d'arbitre, va dire, bon, voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. En tant qu'État, nous, on peut vous accompagner dans ce sens. Donc, c'est comme ça qu'on va continuer. Merci bien.
Oui. Comment donc parvenir à un pardon, à une cohabitation entre les victimes de cette crise et les personnes qui seraient présumées auteurs de ces différentes violences-là?
Bien, vous savez, hein, ce n'est pas difficile. Hein. Que ce soit des chrétiens, que ce soit des animistes, que ce soit des musulmans. Le pardon existe partout. Quand je dis le pardon, tout d'abord, il faut accepter, se réconcilier. Se réconcilier. Pas dire seulement, j'accepte tes excuses. Non. Il faut faire parler le cœur. Accepter avec grand A. Pour cela, il faut oublier le passé. Que les victimes acceptent les pardons de ceux qui ont osé agresser. Que ceux qui ont agressé également acceptent dire « Oui, j'ai fait telle chose, je vous prie de me pardonner. » Là maintenant, faire parler le cœur et non les armes. Là où le cœur est au-dessus des armes, rien n'est impossible. On peut s'énerver à un homme moins, hein, mais quand on demande pardon avec un grand P, tout chrétien, tout animiste, tout musulman accepte cela. Ce n'est pas au-dessus de nos moyens. Si moi je prends un exemple, mon cas personnel, celui qui accepte de demander pardon, mais je dis, mais c'est fini, j'ai oublié. J'ai oublié. Et je pardonne. Pas seulement par un mot, pardon, non. Mais concrètement, je montre que j'ai pardonné. Donc, il faut une réconciliation. Il faut une réconciliation. Et cela, on fait appel à tout le monde. Voilà.
Alors, M. Togo, est-ce que ces initiatives de dialogue qui vont être lancées ou qui seraient déjà en cours, est-ce qu'elles vont avoir lieu également dans les communes non accessibles, notamment certaines des 6 communes de la, du cercle de Bandiagara?
Oui, merci beaucoup. Vous avez parfaitement raison. Ceux qui sont partis là, ils sont liés par le lien de parenté, le lien d'association, le lien de communauté. Nous allons chercher des leaders dans chaque site de déplacés. Des gens, j'en connais déjà un qui est à côté de nous là-bas, là, Alhaji Boubou. Il suffit que lui seul, il parle, les gens disent que nous sommes d'accord. Ce sont ces leaders qu'on va chercher. Mais on ne va pas communiquer comme ça. On va leur demander qui est-ce qui est le mieux écouté parmi vous. Ils nous diront. Ce sont ceux-là, ce sont avec ceux-là qu'on veut dialoguer. Ou au plus, un dialogue sur le terrain là-bas, sur le site. Tout le monde a la parole, c'est plus démocratisé. Tout le monde a la parole, chacun va s'exprimer. Et comme a dit le pardon là, tout chrétien, tout musulman, c'est basé sur le pardon. Tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Ils le savent, ils sont bien convaincus. Surtout quand il y a question de décès, de mort, de tuerie par exemple. Les hommes disent, ah, lui il a fini. Il est parti, il ne reviendra pas. Pourquoi encore on va insister? Gâter notre avenir. Yafike, j'ai pardonné. C'est ce qu'ils diront.
Alors, vous le disiez, moi, tous les trois, vous disiez, je répète vos mots, on nous a imposé cette insécurité. Est-ce que vous pensez que ceux ou celles qui ont imposé cette situation vont accepter, vont laisser faire ces initiatives, ces échanges, notamment dans les zones non accessibles, M. Louguet?
Ok, merci bien, on a compris. On a très bien compris le message. Et à partir du moment où tout le monde est unanime qu'on nous a imposé, on ne va plus accepter ce qu'on nous impose. Donc cela voudrait dire que même ceux-là qui nous ont imposé veulent nous poser des obstacles. Nous, on va surmonter ces obstacles. Et tous les moyens sont bons pour arriver au pardon, comme les sages l'ont dit, pour arriver au dialogue, pour arriver à la réconciliation. On ne va pas arrêter en si bon chemin, parce que c'est de là où on va s'entendre. Et on va continuer, malgré qu'on a aussi des pressions de ceux-là qui nous ont imposé. Et avec l'appui du gouvernement malien, ceux-là qui nous ont imposé, aujourd'hui, le papa l'a dit tout de suite, beaucoup ne sont pas là. Beaucoup sont partis. Et ceux qui restent, peut-être c'est nos frères égarés. On peut aussi parler avec eux, les demandant de venir. Et que voilà un processus de dialogue qu'on a enclenché. Venez, vous allez nous joindre à ça et on va continuer avec le dialogue. Et de ce fait, je crois bien qu'à partir de là, on aura vraiment une solution à notre problème.
Monsieur Touré,
oui.
En 2020, juste à l'approche de du Ramadan, couper les gens là. Il y a des communautés qui sont organisées. La municipalité les a conduits ici, à Doukombo, à la commune. Ils ont dit au chef des villages, nous, on veut boire l'eau du Ramadan là, ici, chez nous, dans nos sites. Malheureusement, le chef des villages leur a dit, bon, nous, nous sommes d'accord, hein. Il faut aller voir les Dana. Je sais que leur a dit. Bon, ça les a aussi un peu effrayés. Ils n'ont pas vu les Dana, ils sont retournés. Mais ça, c'est une série de villages qui entourent donc Banyangara. Et ils ont un leader.
Le micro, oui.
Ils ont un leader très charismatique qu'ils connaissent, que je connais. Il a des milliers de têtes, donc il est écouté parmi les peuples. Donc ce sont ceux-là là, qui vont faire la sensibilisation avec les autres. Ce n'est pas nous. Nous, on ne peut pas aller les voir. C'est eux qui se connaissent. C'est eux qui connaissent qui a fait quoi. Et c'est eux qui vont taire, donc qui vont, disons, qui vont éteindre le feu.
Okay. Faut-il donc intégrer les femmes dans ces échanges ou est-ce déjà le cas?
Mais M. Touré, aujourd'hui, là, dans ce monde-là, on ne peut rien faire sans les femmes. Ah, mais oui. Nos mamans, nos femmes, nos sœurs, c'est des champions aujourd'hui. Ce que Dieu veut, comme on le sait que femme veut, Dieu veut. Il faut obligatoirement impliquer les femmes. Obligatoirement, je le dis bien, et je soutiens cette solution-là. Sans les femmes, rien ne peut marcher. Et à Banjagara, je connais presque toutes les femmes leaders sont impliquées pour résoudre cette solution-là. Beaucoup de femmes.
Merci à nos trois invités, Paul Togo, membre de la société civile de Banjagara, Bokari Sissé dit M. Bailo, enseignant retraité ici à Banjagara, et Amadou Lougué, président du conseil local de la jeunesse de Banjagara. Je rappelle que ce grand dialogue de Studio Tamani a été délocalisé ici à Banjagara pour parler de comment promouvoir le dialogue intra- et intercommunautaire dans la région ici. À la régie vidéo et audio, Mamadi Keïta, à la réalisation, c'est avec la contribution de Adama Djigiba. La présentation a été assurée par Mouhamadou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. On le dit, s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Vivement la paix et la stabilité dans tout le Mali et dans tout le monde entier. Merci à toutes et à tous.
Amen.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.